Julia Palombe, votre première fois?
C'était quand?
C'était comment?
J'avais 16 ans, c'était au lycée Frédéric Mistral à Avignon. J'étais donc étudiante, j'étais en internat. Lui aussi, il étudiait le cinéma et moi j'étudiais la danse. Donc en fait, on n'avait pas d'autre choix que de faire l'amour dans le lycée. Et voilà, j'avais fait le mur. Et plus tard, je crois que c'était dans une salle d'espagnol. Enfin, voilà.
Ça vous émeut?
Le monde est à nous.
Le monde est à moi.
Le monde est à toi.
Le monde est à lui.
Le monde est à elle.
Le monde est à vous.
Le monde est à vous.
Le monde est à nous.
Téléphone rose. Téléphone rose.
On m'a dit, je chuchote, je chuchotais.
Alice Milo, Pauline Mocor.
Bienvenue à toi, bienvenue à vous.
Le monde est à nous.
On y prend goût, n'est-ce pas?
On n'en est plus à notre première fois, mais on a toujours la même joie de vous retrouver. Que dis-je? La même impatience, la même excitation.
Pas vous?
Chaque dimanche, c'est pour nous comme un premier rendez-vous.
On est fidèles sur RFI.
Ils sont 20 jeunes, ils ont entre 18 et 25 ans, et pour vous, ils ont revêtu leurs plus beaux atours.
Et dans le studio, la température monte.
Derrière la vitre, il y a Victor, notre sexe symbole, et en plateau, ces deux égéries.
Salut, moi c'est Alice.
Salut, moi c'est Pauline.
Et tous les trois, on est là pour guider l'équipe dans cette aventure radiophonique.
Mais le monde est à nous, c'est aussi toi qui nous écoutes.
Et tu peux nous suivre.
Tu dois nous suivre.
Sur les réseaux sociaux.
Alors reste branché, on y va. Aujourd'hui, on parle de sexe.
Bah oui, quand même, on s'est dit, mince alors, dans cette émission, on parle de migrants, d'art, de discrimination. Mais flûte, c'est quand même l'été. Et nous aussi, depuis les studios de RFI, on a bien envie d'être un peu...
Si, sex and sun.
Alors, on enfile le bikini, les Ray-Ban, et on papote un peu de tout ce qui nous trotte dans la tête, ce qui nous titille et nous enflamme.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Mais pas facile de se jeter à l'eau. On commence donc tranquillou par les doigts de pied, les mollets, piano piano, parce qu'elle est un peu froide là.
Toute première fois, toute toute première fois, toute toute première fois.
Alors, pour plonger dans le grand bain, on s'est trouvé deux sauveteurs en mer en mode alerte à Malibu. Julia Palombe, alias Dr Love, roqueuse en barésille, elle chante et danse le sexe décomplexé.
Et Dr Capote, il intervient dans les collèges et lycées.
Dr Capote, Julia Palombe, bonjour.
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 Lou, Xavier, Pauline, Thomas et Philippine, salut à vous.
Salut.
Et sans plus de préliminaires, on y va.
Il arrive dans 10 minutes.
J'arrive dans 10 minutes.
Est-ce que j'ai assez attendu? Je veux dire, est-ce que si je le fais aujourd'hui, ça fait de moi une salope? Je serai celle qui a couché. Mais si je fais rien, est-ce qu'il va aller dire à tout le monde que je suis une Marie Sainte-Nitouche?
Putain, je flippe. Mes potes me mettent la pression parce que je suis le dernier de la bande à pas l'avoir fait. Et moi, j'en ai marre qu'ils me traitent de puceau.
Est-ce qu'il va penser à une capote? Est-ce que je suis bien épilée? Est-ce que je vais avoir mal? Genre, est-ce que j'ai beaucoup saigné ou même pas du tout?
Mais ça va durer longtemps. Et si je tiens que 30 secondes? Enfin, elle va aimer, elle va pas se forcer. Si ça se trouve, elle voudra plus jamais le refaire. Ou peut-être qu'on le fera tout le temps.
Il faut que je me mette comment? Genre au-dessus ou en dessous? Et au niveau des préliminaires, ça se passe comment? Et ça dure combien de temps, ce genre de truc?
Je prends combien de capotes? Et si elle craque? Oh là là, je flippe. Imagine, elle tombe enceinte. Imagine, sa famille débarque, la honte. Imagine, elle rigole en me voyant un poil.
Oh là là, il est là dans 5 minutes.
Putain, j'arrive dans 5 minutes.
Oh mon Dieu, est-ce qu'il saura s'y prendre? Et moi? Est-ce qu'on va le faire la lumière éteinte? Est-ce que je vais me sentir différente? Est-ce que je suis prête? C'est quoi un orgasme déjà?
Boxeur ou caleçon? Faut pas que je prenne un caleçon d'enfant, genre celui avec les petites voitures dessus. Et puis qu'est-ce qu'on va se raconter après? Ça va être gênant.
J'espère que je saurai m'y prendre. Y'a moyen que ça bloque ou autre, que ça passe pas. Enfin, je sais pas moi. Est-ce que j'ai sorti mes sous-vêtements ou on s'en fout? Bon, je l'ai fait quand même parce que j'aime bien, perso.
Faut faire combien de positions différentes? Mais combien de temps chacune? Enfin, comment ça se déclenche? À quel moment? Faut boire un verre d'abord, discuter? Faut y aller direct?
Deux minutes. Il va me voir toute nue. Et si je lui plais pas? Est-ce qu'on le refera souvent après aujourd'hui? Et puis qu'est-ce qu'on se dit généralement après ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire?
Ah ouais, je vais lui faire ma danse de la séduction.
Est-ce que ça va ressembler à ce qu'on voit dans les films? Merde, j'aurais peut-être dû regarder un porno pour savoir comment faire, non? Oh, et s'il raconte tous les détails à ses potes, genre vraiment tout?
À quel moment je vais sortir la capote?
Est-ce qu'il faut que je me mette du parfum?
Non, je vais pas y arriver.
Oh, et puis merde!
C'était la fiction Premier Rendez-vous de Lou et d'Alexandre.
Salut, moi c'est Xavier. Et Docteur Capote, Julia Palombe, je me demandais, est-ce que ça se planifie une première fois?
Non. Docteur Capote?
Non, non, surtout pas. Enfin, c'est triste de planifier une première fois.
Mais du coup, comment ça se prépare?
Moi, je dirais que ça tombe dessus. Le désir, de manière, c'est tellement mystérieux. Ça doit être une avalanche de sensations. Et ça te prend, ça te retourne. Tu dois pas te poser la question.
Il faut y aller.
Il faut y aller, bien sûr. D'ailleurs, je me rappelle la première fois dont je viens de parler tout à l'heure. Mes copines d'internat de chambre m'avaient dit « Tu vas passer à la casserole ». Et pendant que je faisais le mur, en train d'aller dans l'autre chambre du gars, je me disais « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de casserole ?»
Alors, salut, moi c'est Lou, justement. Et Docteur Capote, alors, moi je me demandais comment on sait qu'on est prêt alors pour la première fois.
Je crois qu'on sait pas, en fait. C'est à l'instant où on se retrouve effectivement au pied du mur qu'on se dit « Bah voilà, c'est le moment ». Souvent on dit, il y a la grande phrase des adultes qui disent aux ados, tu le feras le jour où tu seras prêt. Moi ça me fait beaucoup marrer parce qu'on se lève pas un matin en se disant, tiens je suis prêt, j'y vais, t'es prêt toi, mm-hmm. Bon, on y va, et toi aussi, ça marche pas comme ça. C'est plus compliqué que ça, quoi.
Donc faut s'écouter.
Il faut s'écouter, et puis surtout, moi j'insiste beaucoup sur la communication entre les deux, quoi, savoir si on est vraiment raccord à ce moment-là, quoi.
Et Julia Palombe, comment faire pour pas en faire l'événement du siècle, le big deal?
Bah, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est normal que ce soit quand même un passage qui est important et qui pose des questions. Mais par contre, comment faire pour pas que ce soit genre le grand truc? Je crois qu'il faut bien se rendre compte qu'il va y en avoir plein d'autres après. Donc en fait, c'est juste le début d'une très longue aventure. Donc voilà, c'est juste de relativiser peut-être le passage, parce que c'est un peu comme la chute. Hein. Le plus important, c'est pas
le
la chute,
départ,
l'atterrissage, la chute, voilà.
Sans plus tarder, le micro trottoir avec Thomas et Pauline.
Voilà, aujourd'hui, on fait le tour de Paris à la recherche de lycéens pour répondre à nos questions, parce qu'on s'intéresse au sexe et à comment est-ce qu'ils parlent entre eux, les jeunes. C'est un peu une question existentielle pour nous. D'ailleurs, je crois que Pauline, t'as une petite anecdote à nous parler, non?
Ouais, quand j'avais 12 ans, il y a une fille de ma classe qui a commencé à dire à tout le monde qu'elle avait sucé son copain. Elle l'a même dit au prof tellement elle était fière. Et depuis ce jour-là, en fait, cette histoire, elle a un peu pris une ampleur énorme parce qu'on en a parlé beaucoup avec mes copines. Et maintenant, à chaque fois qu'on parle de sexe entre nous, et ben, on fait toujours référence à cette histoire-là.
Ça t'a marqué?
Ouais, trop.
Ah là, il y a un groupe. Viens.
Est-ce que tu parles de sexe avec tes potes?
On en parle quasiment tout le temps.
Il y a un pote à nous... Il nous en parle des fois en cours de maths quand on n'a rien à faire.
Quand vous parlez de sexe, vous parlez de quoi?
On parle de ce qu'on a vécu, des trucs qu'on aimerait vivre.
En fait, on parle des filles qu'on aimerait bien, avec qui on aimerait bien sortir.
Ouais, on parle plus de fantasmes et de rapports parce que dans ce groupe-là, en tout cas, on a plus de fantasmes que de rapports.
Bah, on en parle tellement qu'à la fin, on est déçu en fait parce qu'on s'attendait à beaucoup mieux.
Moi, je trouve ça forcément plus excitant de le faire. Ouais. Mais après, forcément, parfois, quand on raconte, on rajoute des petites minutes, on rajoute des petits centimètres. Là, c'est pas toujours réaliste, mais c'est mieux de le faire que d'en parler.
Faut pas en parler, moi j'en ai parlé à des gens, je leur en parlerai plus jamais, je crois. Après, je l'ai dit à un pote, qui l'a dit à d'autres potes, qui l'ont dit à d'autres potes, du coup ça a tourné dans tout le lycée au final. Après, elle a vu une sale réputation, surtout elle, pas moi. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, tout le monde l'a traité, quoi, de salope, etc.
Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
Moi et lui. Un petit mois.
Est-ce que vous discutez, genre par exemple, de stratégies pour pousser la fille?
On a des petites techniques. Par exemple, si t'arrives à faire certaines choses et que la personne dit rien, tu sens que ça va se faire bientôt. Par exemple, quand tu passes la main sur la cuisse de la fille et qu'elle dit rien, c'est souvent un signe que ça va bientôt arriver.
Et sinon, est-ce que vous en parlez avec vos familles sinon?
Moi, oui. Je parle avec ma mère.
Ouais. C'est une chiodasse ta mère.
Par exemple, je voulais partir en colo. Elle m'a donné des capotes parce qu'elle croyait que j'allais baiser un colo. Bon, j'ai pas baisé un colo. Mais
Et tu lui as rendu.
Après, je lui ai rendu. On est assez ouvert là-dessus, c'est pas un sujet tabou.
Du coup, vous en parlez avec les mecs aussi de vos relations comme ça?
Alors, souvent, quand on entend des garçons parler de relations avec d'autres filles et comment ils critiquent les filles avec qui ils ont des relations sexuelles, du coup, on peut appréhender la manière dont on va être jugé quand on va avoir une relation avec un mec, vu qu'ils n'ont pas vraiment de filtre, en fait.
Oui, en fait, je vois la différence. En fait, quand mes amis garçons sont amoureux
ils vont peut-être moins en parler justement parce qu'ils veulent la protéger. Enfin, souvent j'ai eu ce débat-là avec eux. En fait, ils ont pas envie de donner envie à leurs potes de s'imaginer comment ça serait avec elle. Si c'est leur petite amie, ils vont moins en parler dans les détails. Ils me diront juste ça, ça se passe bien, ça se passe. Non, même je pense qu'ils le diraient même pas si ça se passait mal. C'est une question plus intime pour eux, je pense, quand c'est avec des sentiments.
Talk about sex, baby.
Talk about you and me.
Let's talk about
all the good things and the bad things that maybe. Let's talk about sex. All
right. Lou,
Julia Palombe, quand vous aviez leur âge et que vous aussi vous étiez au collège, est-ce que vous parliez de sexe comme ça, de la même manière?
Alors c'est vrai que moi j'étais, donc comme je l'ai dit, en internat, déjà presque professionnelle dans la danse. Alors j'étais vraiment captée par mon art, mais quand même, bien sûr, on parlait de sexe.
C'était un internat fille.
Disons que la classe de danse était que des filles, mais voilà, en faisant le mur, comme je vous ai dit, on pouvait quand même aller voir des garçons. Seulement, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait pas autant, par exemple, la sexualité, enfin la pornographie sur internet, tout ça, ça n'existait pas. Donc forcément, c'était, je crois, une manière assez romantique de parler d'amour.
Vous vous souvenez des mots que vous employez ?
Quand j'avais 16-17 ans, c'était vraiment très romantique, en fait.
Très soft.
Je crois que j'avais pas compris que la sexualité était autre chose que reproductive. Il me semble que j'avais pas cette notion du plaisir. Et donc, je cherchais juste, évidemment, un homme avec qui je me sente bien, qui me fasse sentir des choses. Pour moi, c'était dans le but d'en faire mon mari, quoi.
Physiquement, ça vous titillait ?
Physiquement, je crois que c'est parce que j'étais très très accaparée par la danse. Mais par contre, oui, dès que je l'ai trouvé avec le premier avec qui j'ai eu un rapport sexuel, je me souviens qu'on restait des heures collées à s'embrasser, des heures dans l'escalier en fait, qui montait au dortoir. Carrément, on payait le gars, le pion là.
Ah oui.
Ah oui, c'était un truc. On le payait pour qu'il nous laisse dans l'escalier à s'embrasser. Non, un truc. Et même ma mère. Mais en fait, ça y est, je me rappelle un truc énorme. On faisait pas l'amour, mais enfin presque dans la cour. Mais à 21h, 21h30, quand évidemment il n'y a personne et que les internes sont là. Et ma mère avait été appelée, parce que évidemment j'étais virée de l'école pendant 3 jours. Et donc la directrice avait dit, oui, votre fille est virée pendant 3 jours. Et ma mère avait dit, ah bon, mais pourquoi? Mais vous vous rendez compte, elle était allongée sur Grégory dans la cour. Et on était là, oui, bon, écoutez, c'est que ça.
Grégory, si tu nous écoutes.
Oui. Et justement, docteur Capote, est-ce que les préoccupations autour du sexe sont les mêmes hier et aujourd'hui?
C'est sensiblement les mêmes. Ce qui a beaucoup changé, c'est effectivement la manière de l'exhiber, en fait. C'est Internet, en fait. Pour le coup, on avait les mêmes discussions. Ce que j'ai entendu là du micro-trottoir, c'est on a pu faire le même, je pense, il y a 20 ans, 30 ans.
Mais du coup, on l'exhibait comment avant?
Bah, je pense que c'était simplement dans le groupe de pairs, en fait. Ça restait entre potes, et puis petit à petit, ça disparaissait. Alors que là, aujourd'hui, maintenant, c'est partagé sur le net, c'est liké, c'est gardé, c'est conservé. Et pour le coup, je trouve que l'impact est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que ça fait des dégâts, quoi. Dans les lycées, vous le savez, quoi.
Thomas ?
Alors oui, moi, j'ai un souvenir très précis d'un cours de biologie en 4e, où en gros, on expliquait un peu les mécanismes du cul aux ados. Et dans mon cas, c'était un camarade, donc un volontaire, heureusement, qui devait enfiler une capote sur une banane devant toute la classe. Est-ce que tu t'en souviens, Xavier ?
Malheureusement. Et du coup, je me demandais, docteur Capote, comment tu fais, toi, qui parles aux jeunes, pour pas justement avoir l'air relou et un peu vieillot quand tu parles de ces choses-là?
Ouais, alors après, bon, moi j'ai l'habitude, du coup, maintenant, je sais à quel moment on peut faire un peu des blagues, pousser un peu les choses, soit pas tout le temps une espèce de conférence un peu à la con, je dirais. C'est plutôt l'idée, c'est que ce soit vraiment sous forme de débat. Après, la banane, on a abandonné depuis longtemps. Hein, parce que,
ah, donc voilà,
c'est pas une banane.
Il n'y a plus de banane.
Non, on a abandonné la banane.
Pauline, en parlant de capote?
Alors, bon, ok, on s'est pas protégé, mais c'est un mec bien, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème, et puis en plus, je prends la pilule. Alors, bonjour, moi, c'est Pauline. La citation que vous venez d'entendre, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues au lycée, de la part de copines à moi après leur première fois. Et c'est assez flippant, parce que c'est comme si elles avaient plus peur de tomber enceinte que d'avoir le sida. Et donc, moi, ça me choque aussi de savoir que un tiers des jeunes en France disent ne jamais mettre de préservatif, selon une étude en 2014. Et ma question, docteur Capote, c'est comment on fait pour faire comprendre aux jeunes que le sida, c'est pas un truc de vieux dépassé, mais bien un sujet d'actualité?
Ouais, alors déjà, au-delà du sida, moi je parlais toutes les IST. Pour le coup, on a parlé beaucoup du sida, on a oublié toutes les autres. Les infections sexuellement transmissibles, il y en a beaucoup. Le sida, ça reste quand même, en France, c'est 300 000 séropositifs, c'est toujours trop. On est bien d'accord, mais faut pas non plus tomber dans la parano totale par rapport au sida, je crois que c'est important. On a oublié les autres. Les chlamydiés, entre autres, hein, par exemple, qui sont quand même omniprésents, qui peuvent donner des causes de stérilité. Donc pour le coup, c'est pas mal. Après, bah voilà, c'est le boulot qu'on fait, hein, c'est faire de la prévention, c'est discuter avec vous, débattre, amener l'information, problème, c'est qu'il y en a de moins en moins. Et en Ile-de-France, on a du bol, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'associations, mais je vois dans le reste de la France, c'est peanuts, quoi. Il n'y a pas grand-chose, hein. On ne débloque pas beaucoup d'argent pour la prévention, et ça, c'est dommage.
Quand on a préparé l'émission, Philippine nous a parlé d'un court-métrage qui s'appelle Aramiste, c'est de Antoine Desrosières et c'est sorti il y a un an.
Alors c'est l'histoire de deux sœurs musulmanes, elles portent le voile et vivent en banlieue parisienne. On les retrouve en pyjama dans leur chambre, loin du regard des adultes, et ça parle fellation et ça donne ça.
Faut que tu fasses un mouvement de langue régulier, doux, non, sensuel, lent et sensuel, genre comme ça, regarde. Essaye de m'imiter. Non mais tu me regardes quand tu m'imites. Essaye de m'imiter là. Au pire, tu peux mettre ça dans ta bouche et tu fais des mouvements de va-et-vient.
Xavier ?
Julia, j'avais une question très technique. Est-ce que première fois ça veut forcément dire missionnaire ?
Alors déjà, sexualité, ça veut pas forcément dire pénétration. Donc tu vois là où j'en suis. C'est-à-dire que ça m'insupporte de voir la sexualité qui se réduit comme ça à la pénétration, qu'elle soit vaginale, anale, les deux à la fois, les jacques faciales, etc., j'en peux plus. C'est pas ça, en fait, le sexe. Et je suis aussi hyper choquée par ce que j'entends là, dans ce qu'on vient d'entendre dans le son, parce que cette manie d'être dans l'imitation, pour moi, c'est aussi insupportable. Je voudrais vraiment dire, au contraire, aux jeunes, surtout créer, inventer, explorer. Il n'y a pas du tout de règles pour faire une fellation ou pour faire l'amour. Et évidemment, non. Le missionnaire n'est pas un passage obligé, mais rien n'est un passage obligé, en fait. Ce qui est intéressant, c'est d'oser aller dans sa fantasmagorie et de la communiquer, bien sûr, mais certainement pas d'imiter.
Se lâcher, quoi.
Oui, se lâcher, vraiment. Il n'y a que comme ça, à mon avis, qu'on peut explorer à plusieurs.
Lou ?
Bah justement, pour rebondir sur la question de Xavier, docteur Capote, est-ce que finalement, pour la première fois, on n'est pas un peu trop obsédé par la technique et peut-être même qu'on en oublie le plaisir?
Le début de l'émission était bien fait. Il y avait toutes les questions sur les premières fois. Là, c'était, je vous ai bien répertorié tout ça. Quand on a tout ça en tête, c'est difficile. Alors, c'est vrai que dans l'absolu, se lâcher, créer, c'est génial. Mais je pense que ça demande un peu de temps quand même, parce que pour le coup, à l'adolescence, c'est hyper flippant les premières fois et on est un peu prisonnier de la technique. Et puis on a peur d'être maladroit, on a peur de faire mal, d'avoir mal. Tout ça, c'est vraiment réel. Donc, je pense que ça demande un petit peu de temps. Mais c'est vrai que le fait de communiquer, de se parler, d'échanger sur le sujet, ça peut effectivement éliminer les premières peurs, quoi.
Philippine.
Bah justement, moi, je voudrais parler de la question du consentement. Je sais pas si vous avez vu tous en plateau, il y a une petite vidéo sur Internet qui refait surface régulièrement, où en fait, on explique que le consentement, c'est aussi simple que boire le thé. En gros, si votre partenaire vous dit « Ah oui, j'adorerais une tasse de thé », bon, bah, servez-lui une tasse de thé. Et si, à l'inverse, il ou elle vous dit « Je suis pas trop sûre d'aimer le thé », bah, ne lui faites pas de thé. Alors, évidemment, quand on parle de sexualité, le consentement, c'est probablement un peu plus compliqué. Mais du coup, je voulais vous demander à tous les deux, concrètement, comment on fait pour savoir si son ou sa partenaire est consentant pour tel ou tel truc sexuel, docteur Capote ?
Bon, moi, je crois que c'est ça. Je parle toujours de communication, mais communiquer, c'est à la fois verbal et non-verbal. Hein. Donc, le non-verbal, c'est les gestes. On regarde un petit peu comment est l'autre. Et puis, le verbal, c'est une petite question, toute simple. Ça va ? T'es sûr ? T'es bien ? Des fois, ça suffit pour laisser la parole à l'autre et faire émerger la parole. Et là, on peut dire non, ça va pas, ou je suis pas bien, ou j'ai besoin de temps. Ou... Mais le faire, je pense que c'est, ça permet d'ouvrir la discussion, le débat, et du coup, on sait.
Et ça casse pas un peu l'instant, la magie, la frénésie?
Oh, si je dis à l'autre en la regardant dans les yeux, en regardant dans les yeux, en disant ça va, t'es sûr, t'es bien. Je sais pas, il y a une manière de le dire. C'est-à-dire si c'est technique, alors comment tu vas? Tu es sûr que tu veux aller plus loin? Ouais, ça,
mais c'est... quand même sur la technique, moi, vos deux questions se rejoignent. Hein, mais moi, à mon époque, il n'y avait pas tous ces tutos et toutes ces choses-là. Donc moi, si je peux aussi répondre sur ça, je voudrais dire que oui, je crois effectivement qu'on s'est bouffé par la technique. Et en tout cas, c'est un piège qui nous est tendu à nous les femmes de se demander dès qu'on fait le moindre geste amoureux si on le fait bien ou si on le fait mal.
Vive le sexe sans technique. Le Monde est à nous, l'émission de salubrité publique parce que le sexe, c'est bon pour la santé.
Reste avec nous, on revient dans 3 minutes.
Pauline, Philippine, Lou, Xavier et Thomas vous font du bien avec nos deux invités Julia Palombe et Docteur Capote.
C'est juste après le flash et les nouvelles du monde.
Le monde est à nous. Pauline Maucor, Alice Milo.
Salut à tous.
Le Monde est à nous, c'est tous les dimanches de l'été sur RFI.
L'émission est fabriquée par 20 jeunes qui ont entre 18 et 25 ans.
Dans le studio, la rockeuse Julia Palombe et le docteur Capote, deux spécialistes de la sexualité sans complexe.
Pauline, Philippine, Lou, Xavier et Thomas continuent d'explorer les coulisses des premières fois. Et avant les premières fois avec l'autre, il y a souvent les premières fois avec soi-même.
Philippine a rencontré Adèle, étudiante en cinéma. Elle a réalisé un travail documentaire autour de la masturbation féminine.
C'était l'époque où je vivais en Suède, donc c'était en courant 2011. Mes parents qui m'appelaient toutes les trois semaines pour savoir si j'étais encore en vie. Et en fait, j'ouvre la fenêtre Skype et je vois en basse définition une sorte de truc blanc qui s'agite. Et ma mère me dit « c'est génial, ma chérie ». Cette nuit, ton frère est devenu un homme. En fait, c'était les draps de la nuit dernière de mon frère, sur lesquels ils ont dû retrouver les traces d'une sorte d'éjaculation nocturne ou de fantasme masturbatoire, enfin un truc de cet acabit-là. Et c'était une nouvelle à m'annoncer, même si je vivais à 1500 km d'eux. Et c'était quelque chose dont on pouvait parler, dont on devait parler, parce que c'était une sorte de rite de passage important.
Il avait quel âge à l'époque, ton frère ?
Il avait 12 ans.
Et tu te souviens de ta première expérience de masturbation ?
En fait, je dirais qu'il y a eu un peu deux masturbations. Il y a eu une masturbation inconsciente qui est arrivée très tôt, vraiment vers 9-10 ans. Il y a une technique de masturbation qui consiste à serrer quelque chose entre ses jambes. Donc ça, c'est très mécanique, en fait. Et je crois que c'était en grimpant à un portail que je me suis rendu compte que ça me procurait du plaisir. Mais en fait, c'était très inconscient et j'avais déjà la sensation que c'était absolument secret. Pour moi, c'était... très honteux et très bizarre, et toutes les sensations que ça me procurait étaient absolument tabous. Enfin, c'est un peu tragique de dire ça, mais jusqu'à mes 18-19 ans, j'ai cru que j'avais inventé la poudre. J'ai cru que j'avais trouvé un truc hyper magique, que personne n'avait trouvé avant moi. Et après, du coup, quand j'ai grandi, j'ai appris qu'en fait, c'était une technique de masturbation tout à fait commune et banale. C'est beaucoup plus tard, vers 15 ans, où j'ai commencé à me masturber, on va dire, plus consciemment, mais toujours avec cette grosse pression que personne ne sache jamais et que personne n'allait jamais savoir.
Comment ça se passe aujourd'hui de ta pratique de la masturbation ?
Je pense qu'on n'est jamais mieux que dans son lit. Hein. Enfin, je sais pas, je parle personnellement. Ensuite, j'ai beaucoup besoin de m'isoler, parce que comme j'ai découvert, entre guillemets, tôt la masturbation, j'ai découvert tôt aussi comment je fonctionne. Donc, en fait, j'ai besoin de me raconter une histoire. Et du coup, j'ai vraiment besoin d'être seule, d'être dans le noir et d'être dans le silence ou dans une musique agréable. Alors, c'est souvent dans des périodes de travail intense. C'est souvent genre en milieu de journée, genre vers 11h30 du matin. Je sais pas pourquoi, c'est la vie. Je crois que le stress hormonalement produit un truc. Parfois, je m'aide avec du porno. Quand j'ai la flemme, je regarde un film. Et quand j'ai un peu moins la flemme, que j'ai le temps, que je me sens dans de bonnes conditions, j'ai tendance à essayer de me raconter mon histoire.
Et est-ce que ça t'arrive d'utiliser des objets ?
Je peux être crue ou pas ? J'ai trois sextoys, deux qui sont basiquement des pénis, enfin des sortes de bites, mais je suis vraiment clitoridienne. Et après, sur le clitoris, franchement, mais j'ai pas de mouvement fétiche. C'est vraiment de la réinvention à chaque fois.
Ça peut durer très très longtemps ?
Basiquement, ça doit durer entre 10 et 12 minutes, et ensuite obtenir les suivants prend 40 secondes à 2 minutes. On va dire qu'un moment peut durer entre 30 et 45 minutes. Et généralement, au bout de 45 minutes, je me sens vidée, je me sens détendue, je me sens fatiguée, mais d'une sorte de fatigue vraiment apaisante. C'est un peu horrible ce que je veux dire, mais il n'y a que la masturbation qui permet comme ça d'oublier ce qui se passe pendant 30 à 45 minutes. D'avoir un tel oubli, une telle perte de conscience.
Madame rêve d'atomiseur. Et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur, Madame Rêve.
Thomas.
Julia, dans oui. Julia, dans une étude très sérieuse, et selon oui. Philippe Renaud dans son bouquin Nouvel éloge de la masturbation, on apprend que 90% des hommes reconnaissent se toucher, contre seulement 68% des femmes. Alors moi, j'ai été assez étonné dans ton bouquin qui sort en septembre, Au lit citoyen, non très porteur. Tu ne parles pas de masturbation alors que c'est une étape hyper importante dans la construction de son identité sexuelle, de découvrir son corps et ses sensations. Alors pourquoi est-ce que tu as sauté le chapitre masturbation ?
Il y a quand même tout un commandement qui s'appelle « Connais-toi toi-même ».
Tu parles d'intelligence érotique dans ton bouquin, mais c'est vrai que, enfin, on avait tous eu le même sentiment de vraiment d'une sexualité essentiellement pratiquée à deux et pas tant pratiquée seule. Mais du coup, tu penses quand même que c'est un élément très important.
Ah oui, 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 tout à fait. Mais c'est étonnant. Oui, effectivement, je pense bien sûr que c'est important. Quand je parle dans le livre de se tâter, je dis de tâter le terrain, de se tâter. Quand je parle évidemment de se connaître soi, sensuellement parlant, là, il est évident pour moi que je parle de masturbation, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas insisté non plus sur les termes techniques. Je parle pas plus de la fellation que de la masturbation ou d'une autre technique, mais maintenant, moi, je crois que c'est tout le corps. Encore à nouveau, cette idée de sexualité globale. C'est-à-dire qu'on voit bien, en fait, que la sexualité, c'est pas seulement, même pour une femme, ça se trouve pas seulement dans son vagin. Il y a tout le corps qui est en jeu. Et c'est bien, je crois, dès le début, de comprendre ça et d'être à la recherche des zones érogènes qui seraient autres que le sexe. Mais oui. J'y penserai pour la prochaine fois, la masturbation, oui.
En tout cas, entier.
En tout cas,
sur la masturbation.
Adèle, qu'on a entendu dans le reportage, a expliqué à Philippine qu'une fille qui dit qu'elle se masturbe, elle est souvent interprétée comme une fille frustrée ou une fille accro au sexe. Et Pauline, tu avais une question justement à ce sujet.
Oui, parce que souvent pour un homme, on dit que c'est le moment où on devient un homme, c'est une étape, comme on a pu l'entendre dans ce témoignage. Et donc j'ai une question pour toi, docteur Capote, c'est comment est-ce que tu abordes ce sujet de la masturbation avec les jeunes ? Et surtout, comment tu en parles ? Est-ce que tu en parles de la même manière aux filles qu'aux garçons ?
Moi j'aime bien quand j'ai des classes non mixtes justement. Pour le coup, sur la masturbation féminine, c'est pas mal quand on a des classes que de filles parce que c'est plus simple. Il y a un gros tabou sur la masturbation féminine. Tu vas parler de masturbation, les garçons ils font tous le geste, ils connaissent par cœur, ils sont morts de rire, ils connaissent. Tu parles de la masturbation féminine, là c'est silence total, c'est l'omerta. Les filles n'osent pas en parler, les garçons en parlent très mal. En montrant le geste, c'est-à-dire de pénétration, absolument pas les caresses autour de la vulve, du clitoris, etc. Et le clitoris, c'est le grand oublié de la sexualité. Mais ça, c'est le tabou majeur de la sexualité aujourd'hui, qu'il va falloir dépasser à un moment ou à un autre, mais c'est
et
pas ça.
Et pourquoi, selon vous, c'est tabou, justement ?
Parce que la sexualité des femmes a toujours été tabou. La sexualité, elle tourne toujours autour du mec. Hein. C'est
elle
le mec dominant qui doit amener le plaisir. Et on est quand même beaucoup là-dedans encore. Quoi.
Mais oui, quand on pense que, ça je le dis justement dans le bouquin, la première échographie du clitoris, c'est Odile Buisson qui l'a faite en 2009. Pendant longtemps, on a bien sûr coupé le clito. Pendant longtemps, on a comparé la jouissance féminine à l'hystérie. C'est bien sûr encore tabou. Mais moi, j'avais l'impression quand même qu'on commençait à en reparler. Je vois de plus en plus, même sur les blogs, etc., je vois de plus en plus de schémas du clitoris où on voit bien que on ne voit que la partie émergée, n'est-ce pas ? Et que c'est immense à l'intérieur.
Est-ce que ça fait peur, la sexualité féminine ?
Je pense qu'elle fait peur, ouais, parce que je pense que déjà, d'abord, on est dans une société hyper hétérocentrée, donc du coup, on oublie déjà les rapports lesbiens, hein, déjà l'une. Et puis, donc quand on parle de sexualité hétérosexuelle, on a toujours cette espèce de caricature, ce que je disais tout à l'heure, hein, de l'homme qui doit amener effectivement le plaisir, qui doit décider, qui doit conduire un peu les choses. Et donc du coup, il y a plein de mecs, de jeunes, et moi jeune d'ailleurs, qui me disent si effectivement une fille se masturbe, c'est que je n'ai pas complètement réussi mon passage sexuel avec elle.
Le monde est à nous.
Pour certains, la première fois, ça peut être tard, voire très tard, et des fois, c'est par choix.
C'est le cas de Samir, 27 ans, c'est un copain de Fabien, et c'est Anaïs et Calypso qui l'ont rencontré.
Moi, on va dire que je côtoie pas de femmes parce que j'attends le mariage. Donc, c'est difficile d'attendre le mariage en côtoyant des femmes. Donc, on va dire que je m'éloigne au maximum du péché. Bah, c'est vrai que de nos jours, ça peut être vu comme arriéré, on va dire. Même de la part de musulmans. Hein. Je pense un peu à l'ancienne, on va dire. Moi, par exemple, j'ai trois petites sœurs. Je serais incapable de faire à une fille ce que je voudrais pas qu'on fasse à mes petites sœurs. Voilà, moi, je les ai élevées un petit peu avec ma mère. Moi, limite, je sais pas, une mouche, je pourrais pas l'écraser, tu vois. Mais on touche à mes petites sœurs. Donc, ça veut dire que je pourrais pas, psychologiquement, je pourrais pas sortir avec une meuf comme ça parce que je voudrais pas qu'on sorte avec mes sœurs comme ça.
Donc, je me demande, parce que bon, quand même, le sexe est important, tu vois, ça prend une place importante dans la vie de couple. Donc, est-ce que toi, si tu te mets avec une fille, tu te maries avec elle, et que, bon, il s'avère que c'est un mauvais coup, qu'est-ce que tu fais ?
Une femme qui a connu que moi, et j'ai connu que elle, ça sera forcément bien au minimum. Je veux dire, voilà, dans sa tête, c'est pas comme si elle avait une liste derrière elle et que voilà, elle va me comparer par rapport. Elle a fait un top 3 des meilleurs coups et qu'elle va me dire, ouais, celui-là, il est en 16e position. Et étant donné que t'as pas trouvé mieux, bah, tu te contentes de ça. Enfin, ça sera un minimum bien dans tous les cas, tu vois.
Philippine ?
Oui, alors moi, je voudrais réagir à ce témoignage parce que sans être exactement dans la même situation que Samir, j'ai grandi dans une famille très catholique. J'ai évidemment jamais parlé de sexe avec mes parents. Et dans le lycée privé catholique où j'étais, je me souviens pas, Xavier Thomas, avoir vu passer de bananes ni quelconque autre forme d'éducation sexuelle. Du coup, docteur Capote, Julia Palombe, comment on fait pour libérer sa sexualité quand on baigne dans un milieu qui est très peu porté sur la question ?
Ça c'est sûr que c'est un problème. Ça veut dire qu'il faut soit aller s'ouvrir à d'autres, aller rechercher soit d'autres discours. Qu'on soit enfermé dans sa famille ou dans un discours religieux, il y a quand même un moment où on vole de ses propres ailes. Hein. On a non seulement le droit, mais le devoir d'aller chercher des réponses à nos questions qui soient autres que les réponses de papa, maman.
On les trouve où, auprès de qui?
Les livres, la culture, en règle générale, je dirais que c'est vraiment là que ça va se passer, je pense, pour ouvrir son imaginaire. Mais après, c'est vrai que c'est aussi une question de connaissance de soi. Encore une fois, on y revient, mais parce que c'est quand même la base. Mais aussi, comme dans le livre, je parle de la possession, de la jalousie, de toutes ces choses qui nous empêchent de vivre notre couple ou notre sexualité. Bon, ben, je crois que c'est à nous, en tant que jeunes adultes, d'aller chercher ces réponses-là. Mais dans la vie de tous les jours, on rencontre des rencontres, ça.
Est-ce qu'il faut un déclic ?
Il y en a plein, des déclics, il me semble. Parfois, ça peut se passer au lit, on rencontre quelqu'un qui, tout à coup, nous parle ou nous fait faire des choses qui nous font aller vers d'autres chemins. Parfois, moi, j'ai eu une rencontre importante, par exemple, avec un chorégraphe, bon, qui a été mon amant, et avec qui j'ai découvert des trucs incroyables, enfin, qui me parlait de sexualité, plaisir. C'est vraiment complètement détaché, non seulement de la religion, quelle qu'elle soit, mais même de l'histoire de vivre ensemble ou de faire des enfants. C'est le premier qui a vraiment parlé de sexualité juste pour le plaisir et l'intensité de la rencontre.
Comme le sport, un peu.
Comme le sport, pourquoi pas ?
Le sexe comme le sport. Paulina.
Et moi, j'aimerais bien rebondir aussi sur ce témoignage, te demander à toi, docteur Capote, est-ce que tu as déjà entendu... dans la cour de récré, dans les couloirs de lycée, collège où tu es intervenu, des personnes avec ce point de vue-là sur la virginité. Et est-ce que certaines filles, par exemple, ont recours à d'autres moyens pour garder leur virginité, en fait, pour cacher leur vie sexuelle?
Mais déjà, la première question, est-ce que vous entendez...
Oui, tout le temps, oui. Enfin, beaucoup. Hein. Il y a quand même le grand retour des religions depuis quelques années, quand même. C'est très clair.
Ça, vous le constatez, clairement?
On le constate clairement, oui, bien sûr. On en parle beaucoup, la virginité au mariage, tout le temps. Alors après, il y a une posture aussi par rapport au groupe. Il y a ce qui est dit et ce qui est fait, ce qui est deux choses. Hein. Et il y a l'utilisation de la religion. Elle sert bien les mecs, hein, aussi, pas mal, quand même, l'air de rien. Parce que la virginité, ça reste beaucoup aux femmes. Eux, ils se débrouillent. Hein. Quand j'ai des classes de mecs, ils me parlent de virginité pour leur future femme. Et quand je leur fais un petit clin d'œil, on dit « Bon, alors vous, les gars, vous en êtes où ?» En général, ils ont quand même déjà eu des relations sexuelles. Et puis, ils disent « Bon, ça va, ça passe. » Donc, on est quand même dans une lecture particulière, une hypocrisie de la religion qui arrange bien certains ou d'autres. Donc, moi, je me dis souvent, c'est aussi une posture. Et chacun se débrouille un peu avec ça. Il y a l'éducation familiale. Après, il y a effectivement, tu l'as dit, hein, la transgression qui fait qu'en grandissant, bah, petit à petit, on prend la distance par rapport à ça. Bon,
et vous leur dites quoi, vous, face à ce genre de discours?
Moi, je leur dis surtout qu'ils ont quand même ils ont des droits en tant qu'être humain. Ils ont le droit à l'accès, donc déjà le droit de...
Sans le droit de jouir!
De jouir, le droit d'utiliser leur corps, d'exister avec leur corps, de vivre. Puis surtout, on parle beaucoup de choix, que ce soit leur choix personnel, ça c'est important. Ces personnes ne peuvent choisir pour eux. Le grand frère, c'est un grand classique, qui parle de ses sœurs et qui les surveille. Le grand frère, il a pas à choisir pour ça.
Et donc pour les filles, la deuxième question de Pauline, est-ce qu'il y a des filles qui ont recours à d'autres moyens pour garder leur virginité ?
Oui, alors on sait bien qu'il y a effectivement des filles qui vont parler, qui vont poser des questions sur la sodomie,
derrière, parce
par
que
exemple.
J'aime Jésus.
Oui, par exemple. Je sais pas trop, en fait, pour le coup, si c'est un mythe ou si c'est une réalité. Est-ce qu'elles le font vraiment ou pas? On a plein de gens qui nous disent oui, elles le font beaucoup, etc., qui parlent de ce postulat-là. Moi, je méfie un peu entre ce qui est dit et ce qui est fait réellement.
Quelle surprise ce matin, quand dans un féminin, je croise l'image lunaire d'un sexe polaire, et puis il est maquillé comme une voiture volée, faussement juvénile, tatoué jusqu'au nombril, que je sois calibré, aux mères quand ils vont monter, au dire des publicistes, mon clito serait tankiste. Lycée en mode Barbie, les tic-tac de l'envie, la touffe leur fait peur, où sont passées nos fleurs. Oui, 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 j'aime mon vagin et mes poils pubiens. Oui, 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 j'aime mon vagin, il me le rend bien. Bijoutés et parfumés, pâles et sans odeur, facho, clamines rosées, allez donc voir ailleurs. Le minou argenté ne me fait pas rêver. Si vous voulez essayer, allez vous faire percer. Oui, 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 j'aime mon vagin et mes poils pubiens. Oui, 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 j'aime mon vagin, il me le rend bien.
J'aime mon vagin, Julia Palombe sur RFI.
Bon Julia, faut qu'on parle. Après ma question technique, j'ai une question plus scientifique, parce que j'ai lu dans le courrier international qui reprenait un article du New York Daily News, ouais, que grâce à l'épilation, les morpions étaient en voie de disparition. Alors du coup, ma question c'est, est-ce que finalement l'épilation ce serait pas une bonne chose ?
Alors déjà, bon, c'est un petit peu compliqué de dire que l'épilation c'est une bonne ou une mauvaise chose. Encore une fois, ce qui me dérange, c'est de dire il faut absolument s'épiler. Et encore une fois, c'est encore les femmes qui se retrouvent avec cette histoire de devoir faire tout le travail d'enlever tous les poils. Ça, c'est inadmissible. Vous n'avez pas cette pression.
Et si c'est les deux côtés ?
Maintenant, ça commence à venir. Mais en fait, il faudrait pas niveler par le bas. L'idée, c'est pas qu'on se retrouve tous comme des idiots à devoir absolument s'épiler partout, parce que sinon, on serait pas présentable. L'idée, c'est au contraire qu'on ait le choix. Ça peut être une petite fantaisie. Un soir, j'ai envie de me faire la totale, je me rase partout, c'est rigolo, très bien. Mais que ce soit une obligation, ce n'est pas possible. Les poils, c'est notre humanité. C'est notre odeur. Il y a plein de petits SMS magique là, hein. Il y a plein de petits phéromones qui sont à l'intérieur et qui viennent nous donner des instructions. Et justement, quand on se rencontre, une des premières choses qui se passe, c'est ça, est-ce que j'aime son odeur ? Consciemment ou inconsciemment, on va se rapprocher des gens dont on aime l'odeur. Ah non, si vous êtes rasé et bombardé de Chanel 5, qu'est-ce que je te dise ? On sent plus rien.
Mais alors Julia, moi, ta chanson, elle m'a fait vraiment beaucoup de bien parce qu'elle bouscule tous les diktats du porno traditionnel où tout est lisse et tout est plat. Mais puisque tu es très critique, voire même contre ce que tu appelles la gymnastique pornographique, moi je voulais savoir, et je voulais que tu me dises ce que tu penses du porno féministe, ou porno femme pour les intimes, qui est radicalement différent, parce qu'on voit de la diversité, on voit des formes, on voit de la sexualité qui est moins mécanique, et même parfois un peu de tendresse, alors qu'est-ce que t'en penses ?
J'adore, notamment je crois que tu fais allusion peut-être à Erika Lust.
Tout à fait.
Voilà. Ben alors c'est une frange qui est encore assez petite, mais
donc,
que
Erika Lust pour les non intimes.
Oui, parce que Lou est
connue. Une réalisatrice de films pornographiques, elle est espagnole et alors là récemment carrément elle a sorti même un film où il y a pas de pénétration, je crois.
Oui, c'est un film sur l'échage de pied, il me semble.
Mais ça je l'ai vu, le court-métrage sur l'échage de pied, c'est formidable.
Bah c'est ça, et en tout cas elle a une chaîne qui s'appelle X Confessions.
Exactement, X Confessions.
Et en fait le but c'est, comme disait Lou, de présenter une pornographie qui est différente du mainstream.
Pourquoi vous faites pas tourner quand vous avez des références? Moi je connais pas tout ça.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on revient, enfin elle, son message c'est vraiment d'essayer de retrouver une sexualité qui ressemble, qui soit plus proche en tout cas de la sexualité que nous vivons, diverse, variée et en tout cas pas lisse et pas rasée. Moi j'adore, ce que je dis toujours par rapport à la pornographie aussi, c'est que est-ce que les pornographes ont envie de se considérer comme des artistes ou est-ce qu'au contraire ils ont envie de se retrouver finalement à faire tous du Jackie et Michel, c'est-à-dire on se prend soi-même dans la chambre à coucher, voilà. Donc moi je soutiens évidemment la nouvelle vague, on pourrait dire, hein, de pornographie féministe. Oui.
Docteur Capote, ça veut que je pose la question. Est-ce que le problème c'est ça, le porno en soi, ou est-ce que le problème c'est le regard qu'on a, le discours social sur le porno, le fait de dire oui mais regardez du porno ça va faire de toi un pervers en puissance. Est-ce qu'on peut pas se servir du porno en fait comme un outil éducatif pour les jeunes?
On pourrait, ouais. Alors j'imagine mal les parents d'élèves accepter qu'on fasse du porno dans les bahuts. Mais bon, pourquoi pas. Moi, j'avais fait un truc là-dessus sur le porno de substitution et entre autres sortir effectivement de Jackie et Michel qui plaît à beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs.
C'est crade quand même. Hein.
Ouais, c'est surtout avec des lumières très fortes.
Alors, Jackie basées et sur... Michel.
Merci qui
ouais, bon, papa, maman, je m'excuse. Non, c'est en gros des amateurs qui se filment pendant leur relation sexuelle.
Et
c'est plutôt crado.
Ligne.
Ouais, c'est mis en ligne sur Internet.
Non, mais ça,
sur
c'est le règne de l'amateurisme. Ouais. La pornographie fait comme le reste.
C'est pas si amateur que ça, parce que pour le coup, ils se déplacent avec des caméras, ils ont du matériel, pour le coup. Ils font semblant, c'est du faux amateur, en fait, pour le coup. Et avec beaucoup de lumière, c'est très cru, c'est très, les chairs sont très présentes. Enfin, c'est un peu gore, quand même, hein. C'est pas très sympathique.
Et donc, c'est quoi ce que vous appelez le porno de substitution?
Bah, on vient d'en parler, par exemple, effectivement, le porno féministe ou quelque chose qui est plus respectueux du corps, où il y a plus de tendresse, où effectivement on n'est pas simplement hétérosexuel, enfin toutes sortes de relations et oui, un peu de tendresse bordel quand même, tu vois, il peut y avoir du porno et de la tendresse.
Pauline,
alors moi j'ai une petite question pour toi, Julia. Tu dis qu'il faut boycotter le speed dating et les applications de rencontres. Perso, j'ai pas mal d'amis qui en utilisent et effectivement qui s'en servent comme un jeu. Beaucoup me disent qu'ils finissent d'ailleurs par s'enlacer. Mais selon toi, est-ce que ce n'est pas un moyen de lutter contre la misère sexuelle ?
Non, je crois au contraire que ça l'accentue. C'est-à-dire, c'est vraiment rentrer dans le piège du fast-food du sexe. Mmh. Tout va très vite, on est dans la consommation. Évidemment que je prends le contre-pied.
Xavier ?
Julia, dans ton livre, tu dis « égalité, liberté, sexualité ». Alors, le sexe, c'est politique ?
Le sexe, c'est politique, complètement. C'est dans la chambre à coucher que commence l'égalité homme-femme. La paix sociale commence dans le lit, chérie. Mais oui, 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 je le crois. Mais parce que dans le sexe se jouent toutes les appartenances, les cultures, les mythes qui se rencontrent, qui se mettent face à face. C'est l'acceptation des différences qui commence dans ce qu'on a de plus intime dans nos chairs. Donc oui, bien sûr.
Dans Le Monde est à nous, on dialogue d'une émission à l'autre. Et notre invité de la semaine dernière a une question pour vous, docteur Capote.
Je suis Christiane Taubira, je voudrais savoir si vous avez des mots choisis pour expliquer aux jeunes que la première fois est une unique fois et qu'il faut faire en sorte que ce soit une première fois avec une immense et profonde poésie.
Alors déjà, il faut dire que vous avez les yeux exorbités, vous attendiez pas du tout à ça. Hein,
ah oui, moi Taubira, j'ai voté pour elle, grande dame de mes potes socialistes, quand elle s'était présentée contre Jospin d'ailleurs, hein, pour le coup.
Et elle s'adresse à vous.
Donc ouais, elle s'adresse à moi, Christiane Taubira. Donc je suis ému. Et oui, les mots, moi j'essaye de toujours de pas trop réutiliser les mots qu'on a entendu tout à l'heure, les mots d'ado, des fois un peu violents, salope, pute, etc. On n'est pas obligé d'avoir des mots violents, bite, etc. tout le temps pour parler d'amour et de sexe. Et puis l'idée, c'est vraiment de... Non, je suis ému en fait. Du coup, j'ai du mal à répondre
vous
à cette
êtes
question.
Troublée.
Ouais, je suis troublée. Ouais.
Tout comme le monde, l'heure tourne.
Et en guise de bilan, nous posons cette question à tous nos invités. C'est la question à 20 ans.
Moi, je les ai vécus dans l'ombre avec pour seul envie l'amour et puis de dévorer le monde.
Non, je ne regrette rien.
Lou, à toi l'honneur, parce que c'est ton anniversaire aujourd'hui, tu as 20 ans.
Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire.
Merci. Donc oui, bah, merci Victor. Et justement, bah, moi je me demandais, à 20 ans, est-ce que vous imaginiez être aussi libérée sexuellement que vous l'êtes aujourd'hui, docteur Capote et Julia?
Alors moi, je ne sais pas si je suis libérée sexuellement. Mais, Julia.
Révélation.
Moi, j'avais déjà cette ambition dès le début d'être une femme libre. Alors, je n'avais pas encore du tout les clés en ma possession. Mais oui, je suis une grande ambitieuse du plaisir, de la jouissance. Oui, oui, mais c'est la plus belle preuve de vie, mes chéris. Il n'y a pas d'autre quête.
Docteur Capote, Julia Palombe, c'est un rituel pour tous nos invités. On leur demande d'apporter un objet qui parle d'eux. Vous, qu'est-ce que c'est ?
Julia Palombe.
Alors moi, j'ai cette petite boîte que j'ai retrouvée quand vous m'avez appelée il y a quelques jours pour me demander d'apporter un objet. Et à l'intérieur, j'ai retrouvé un bébé marron. Et ce bébé marron, il m'a été offert par le premier garçon avec qui j'ai fait l'amour. Donc. Et il m'avait offert ce petit marron parce que dans la cour de récréation au lycée d'Avignon, il y avait des marronniers, on avait des marrons partout. Moi, quand j'ai retrouvé ça, il y a quelques jours, j'étais assez émue déjà de l'avoir gardé pendant 20 ans. Je ne sais même pas comment il a fait pour survivre.
Il est bien conservé.
Mais surtout aussi de me dire, quelle drôle d'idée de m'offrir un bébé marron. Ça veut bien dire que... Non, mais ça veut bien dire qu'on était certainement dans une idée de l'amour qui était la famille, l'enfantement.
Très romantique.
J'ai trouvé ça romantique et voilà, ça m'a touchée.
Docteur Capote, votre objet ?
Je suis très vintage, moi, du coup, je l'ai amené. Toute là, vous avez droit à la première, c'est... moi, je suis un taré des Creepers. Voilà. Donc, je les commande sur Internet, je suis un grand malade. Ça, je viens de les recevoir.
Ah, pas mal.
Vous.
Comment vous la décririez pour les auditeurs qui ne les voient pas?
Alors les creepers, c'est pour tous les amis du post-punk. Hein. C'est effectivement des chaussures à grosses semelles. Pointues. Elle est rouge, elle est pointue.
Elle est superbe.
Il y a des clous. Ouais.
Alors ce qui est intéressant par rapport à notre sujet, c'est que justement, je l'achète en général sur les sites de femmes. Parce que effectivement, on est encore dans les trucs très genrés. Pour le coup, c'est pour ça que je l'ai amené. Parce que on me demande souvent, ah, elles sont bien tes creepers, je les achète très bien, mais ils les trouvent pas parce qu'effectivement, il faut aller sur les sites féminins pour les trouver. Effectivement, celles-là.
Juste avant de se quitter, une petite séquence de dédicace très rapide, Pauline.
Alors moi, je fais un gros bisou à ma chatte, Dina.
Xavier.
À Yaya, se reconnaîtra.
Thomas.
Bon anniversaire à Lou qui fête les ses 20 ans.
Philippine.
Papa, maman, j'espère que vous n'avez pas écouté cette émission.
Lou. Dédicace à tous les mecs qui pensent que c'est choquant que les filles mettent du porno.
Oumar, si tu nous entends.
Oumar.
Et mention spéciale pour Victor Hull de l'autre côté de la vitre du studio.
Merci.
Avec Oumar, notamment.
Merci, docteur Capote. Merci, Julia Palombe, d'être venue jusqu'ici pour nous livrer vos secrets.
Le monde est à nous. C'est fini pour aujourd'hui.
Oui, mais on se retrouve la semaine prochaine.
Lou, Thomas et Oumar parleront des jeunes sous influence 2.0. Qui influence qui, sur quel réseau et comment.
Si tu trouves le temps trop long, sache qu'on reste connecté pour toi en permanence.
Sur Twitter, Facebook et Tumblr.
On est partout.
Tu peux retrouver les coulisses de l'émission, la fabrication des rubriques en images et des petites pépites surprises.
Salut à tous.
Salut.
Autour de